Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux ingérences étrangères. À l'ordre du jour ce soir, les ingérences étrangères risquent-elles d'influencer le scrutin européen ? L'approche des élections a fait surgir en Allemagne et en Autriche, par exemple, des accusations d'espionnage au profit de la Chine ou de la Russie contre des responsables politiques. Mais qu'en est-il en France, qui a connu, dès l'élection présidentielle de 2017, des manipulations venues également de l'étranger ? Après un rapport parlementaire l'an dernier sur le sujet, une proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France a été récemment votée en première lecture à l'Assemblée nationale, tandis que de son côté, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, vient de rendre un rapport rédigé à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur ce même sujet. Comment identifier les cibles de ces attaques ? Comment distinguer diplomatie d'influence d'un côté et ingérence étrangère de l'autre ? Comment se protéger contre cette ingérence ? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités. Didier Migaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Avec nous également Constance Le Grip, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Renaissance, ancienne rapporteure de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères et aujourd'hui membre de la délégation parlementaire au renseignement qui est en train de travailler exactement sur ce même sujet. Enfin, troisième invité, Paul Charron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM et vous êtes co-auteur avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer des opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien qui vient de sortir dans la collection Documents chez Équateur. C'était en janvier dernier.
Les sociétés démocratiques ouvertes sont plus fragiles vis-à-vis de l'ingérence étrangère que ne sont les autocraties ou les dictatures dans lesquelles la fermeture et le contrôle de la société civile, des médias, des sources d'information, etc., les rend au départ plus solides vis-à-vis de l'ingérence étrangère. Donc on a un nombre croissant de nos pays membres pour lesquels la lutte contre l'ingérence étrangère est une priorité. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord dans nos démocraties, en tout cas dans nos 38 pays membres, que c'est devenu un facteur de déstabilisation assez important, voire très important. Plus on va vers l'est de l'Europe, plus il est évident que c'est un facteur de déstabilisation parfois massif. Ça s'exerce à travers les campagnes de désinformation, l'ingérence électorale, le financement politique, la répression transnationale de la diaspora, la coercition économique et l'ingérence dans l'élaboration des politiques publiques par des pratiques de lobbying secrètes.
Vous venez d'entendre Elsa Pilichowski, c'était le 19 mars dernier, directrice de la gouvernance publique de l'OCDE, qui exposait devant les membres de la commission d'enquête au Sénat le dernier rapport de l'OCDE sur l'état des ingérences étrangères. Ce rapport, c'est à votre demande en tant que président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'il a été travaillé, rédigé. Didier Migaud, qu'est-ce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a à voir avec cette question des ingérences étrangères ?
Nous avons plusieurs missions qui nous conduisent à nous intéresser, en tout cas à l'influence étrangère et donc à la possibilité d'ingérence étrangère. C'est à travers le contrôle des déclarations d'intérêt de 18 000 responsables publics dans notre pays. C'est à travers aussi le contrôle des mobilités de ces principaux responsables. Et c'est aussi à travers la tenue du répertoire de la représentation d'intérêts que le législateur nous a confié à travers la loi Sapin 2. Et justement, à travers l'exercice de ces missions, notamment la tenue du répertoire des représentants d'intérêts, on peut mesurer ou pas la question de l'influence étrangère. On sait que c'est un sujet de plus en plus sensible. Les pouvoirs publics, je crois, en ont pris conscience progressivement. Les parlementaires s'en sont saisis. Le gouvernement lui-même a pris un certain nombre de mesures. Donc tout ça va dans le bon sens. Nous étions convenus avec l'ancienne première ministre de travailler justement sur ce sujet en liaison étroite avec l'OCDE qui a la capacité justement de travailler sur les expériences qui sont conduites aussi dans d'autres pays ou sur les dispositifs qui ont été mis en place par d'autres pays. Et tout le travail qui a été fait par l'OCDE justement sur ce qui se fait aux États-Unis, au Canada, en Australie, au niveau de la Grande-Bretagne, peut être très intéressant pour que justement au niveau des pouvoirs publics français, on puisse reprendre un certain nombre de ces de ces dispositifs.
Alors, c'est donc ce rapport qui vous a été remis et qui a été rédigé par l'OCDE. Et puis, parallèlement, il y avait le travail que vous meniez, Constance Le Grip, avec d'autres en tant que députée Renaissance, avec une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. C'était l'année dernière, mais ce travail a conduit à une réflexion qui a abouti à une proposition de loi. Et cette proposition de loi est en train d'être discutée pour l'instant. Où en est-on? Et justement, avec cette question des ingérences étrangères, et comment peut-on faire la différence, comme je le demandais tout à l'heure en ouverture, entre diplomatie d'influence, ce que la France mène un peu partout dans le monde, qui est légitime, et peut-être même mène-t-elle des opérations d'ingérence étrangère, mais ça on ne peut pas le savoir, puisque nous n'y sommes pas, mais en tout cas, et cette ingérence étrangère que vous critiquez, et dont vous avez justement, que vous avez mis au cœur de votre rapport et de cette proposition de loi.
Alors, plusieurs choses. Effectivement, comme vous le disiez, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale dont j'ai eu la chance d'être rapporteur, qui a mené pendant 6 mois des investigations, des recherches, procédé à un grand nombre d'auditions et qui a remis un rapport que j'ai rédigé attestant de la réalité et de la dangerosité des ingérences étrangères diverses et multiples dans notre pays en braquant les projecteurs essentiellement parce que cette menace-là, elle est réelle, elle est avérée et elle est assez massivement constatée sur deux pays qui sont la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, qui, à elle seule, n'épuise pas le sujet des ingérences étrangères toxiques, malveillantes, qui ont pour but de nous déstabiliser et de détruire le climat de confiance et le climat de sincérité de nos processus démocratiques, nos processus électoraux et de nos médias, mais qui sont incroyablement actives. Et vous le disiez, la délégation parlementaire au renseignement, dont je suis membre par ailleurs, a effectivement également mené un travail dont une partie est restée, je dirais, plus secrète et qui a abouti à un certain nombre de préconisations que nous avons formalisées dans un texte, une proposition de loi portée par Sacha Houlier, président de la Commission des lois, Thomas Gassilou, président de la Commission de la Défense, et moi-même, plus modestement, et dont nous avons débattu et que nous avons fait adopter en première lecture à l'Assemblée nationale le 27 mars dernier, et qui propose plusieurs choses. Tout d'abord, la déclinaison à la française, en quelque sorte, du dispositif FARA américain, mais également repris par nos amis britanniques dans le National Security Act, qui est la création d'un registre de représentants d'intérêts étrangers, un répertoire qui serait officiellement tenu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique et qui permettrait d'identifier, d'enregistrer toutes celles et tous ceux qui portent des missions, qui ont des contrats, qui sont des mandants d'intérêts étrangers, pour mettre tout simplement plus de transparence.
Mais il peut y avoir là-dedans, dans ce genre de personnages, des questions simplement d'influence. Ça n'est pas forcément de la question d'ingérence. Comment faire la distinction entre les deux?
La première étape, c'est la transparence. Et savoir d'où l'on parle, pour qui l'on travaille, ce que l'on fait et d'où viennent les missions et les messages dont on est chargé lorsque l'on approche des responsables publics, des responsables politiques, que l'on intervient dans le débat public et politique. Mais vous avez parfaitement raison d'insister sur la difficulté de distinguer politique de rayonnement, politique d'influence, diplomatie d'influence et les ingérences dont je pense que beaucoup de travaux universitaires, beaucoup de travaux d'experts et la commission d'enquête dont j'étais rapporteur ont convergé dans son appréciation, qui est la suivante: une ingérence étrangère, elle est forcément malveillante, toxique, la plupart du temps dissimulée, sournoise, clandestine, et elle a vraiment une visée de déstabilisation, de destruction, une visée négative. En ce sens, elle est différente du rayonnement, de la politique du rayonnement ou de la politique d'influence.
Alors vous, avec Jean-Baptiste Jean-Gene-Villemaire, grand spécialiste de géopolitique, vous titrez votre livre, Paul Charon, des opérations d'influence chinoise, avec ce sous-titre, évidemment, un moment machiavélien. C'est donc un moment de bascule, pourrait-on dire, entre, en particulier pour les démocraties libérales. Et qu'est-ce que vous voulez dire dans cette diplomatie d'influence, ces opérations d'influence, en quoi sont-elles d'influence ou d'ingérence?
Alors, c'est un moment de bascule, mais qui s'est produit en plusieurs
Bien
années.
Sûr.
Voilà. Mais oui, c'est un moment de transformation des stratégies employées par la Chine, dans la mesure où, pendant longtemps, ils se sont surtout appuyés sur des opérations de séduction. Ils ont misé sur leur soft power, on dirait. Et puis aujourd'hui, ils semblent considérer que la coercition, c'est parfois plus efficace, d'où ce moment machiavélien, puisqu'on emprunte la citation au prince de Machiavel, qui dit qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Mmh.
Et vous parlez de russianisation des pratiques chinoises.
Oui, parce que c'est la trajectoire russe. Il y a une imitation, la trajectoire empruntée par la République populaire de Chine ressemble étrangement à la trajectoire russe de ce point de vue-là. Mais russianisation signifie aussi qu'ils empruntent des méthodes, notamment en termes de manipulation de l'information et en particulier sur les réseaux sociaux, qui sont clairement des méthodes russes. Et russianisation, c'est aussi une soviétisation, puisqu'ils empruntent des méthodes qui appartiennent au répertoire d'action du KGB pendant la guerre froide. Sur la distinction entre ingérence et influence, je crois que ça a été très bien expliqué. D'abord, j'aimerais dire qu'il faut de la transparence aussi pour les opérations d'influence. C'est-à-dire qu'il est important pour nos concitoyens de comprendre que tel média n'est pas un média privé ou de service public, mais un média d'État. On peut penser à RT, à Sputnik, dans le cas de la Russie. On peut penser à CGTN, à Xinhua, pour le cas chinois. C'est important, même pour l'influence. Mais il y a bien sûr des cas aussi d'ingérence, où là, effectivement, il y a deux dimensions importantes. C'est le caractère hostile de l'opération et bien sûr son caractère dissimulé, clandestin, qui peut consister dans le fait qu'on ne sait pas qui est derrière une opération d'ingérence. Donc il y a une opacité telle qu'on n'arrive pas à savoir qui est le commanditaire. Ça peut être une opération sous faux pavillon, c'est-à-dire qu'on fait accuser, c'est très souvent le cas dans les opérations cyber, mais ça l'est aussi dans des opérations d'ingérence plus classiques, où on a des difficultés à identifier le véritable commanditaire.
Vous disiez tout à l'heure, Didier Migaud, que depuis peu de temps, tout compte fait, nos responsables publics, nos responsables politiques avaient pris cela en compte, c'est-à-dire que c'était une prise de conscience, comme le disait d'ailleurs le rapport de Constance Le Grip, salutaire mais tardive. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, c'est un signe, une sorte de dérèglement des relations internationales, durcissement de ces relations internationales qui conduit aujourd'hui à ce qu'on se dise ça vaut vraiment le coup, en tant que responsable public, de s'intéresser à ces circuits d'argent, à la manière dont cette influence et cette ingérence se mettent en œuvre?
Oui, je crois qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans les relations internationales qui font que ce problème se pose avec beaucoup plus d'acuité encore. Et puis, je dirais qu'il y a des expériences et des expériences concrètes que nous avons pu connaître en France
au
moment des dernières élections, au moment des élections présidentielles, par exemple de 2017. Mmh. Et puis, vous avez aussi d'autres formes plus sournoises de recherche d'influence sur l'opinion publique française. Bon, donc cette prise de conscience, je crois, a été progressive. Le gouvernement a pris quelques mesures pour sensibiliser l'ensemble de ses agents publics à travers une circulaire. Il y a eu la création aussi de Viginum, qui est un service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Mmh. Et ça représente un progrès par rapport à ce qui pouvait exister. Il y a cette proposition de loi qui vient de parlementaires, de députés, mais qui a obtenu le soutien du gouvernement et une inscription à l'ordre du jour. Donc ça montre bien que cette prise de conscience, d'abord, est salutaire, et puis peut porter ses fruits. Alors c'est vrai que les actions d'ingérence seront toujours assez difficilement... peuvent être difficilement découvertes.
Enfin, mais... Si on suit les circuits de l'argent, si on arrive à les suivre, ça peut arriver aussi.
Oui, ça peut. Bien évidemment.
C'est ce que doit faire
la CTVP. Mais ce que dit le travail aussi de l'OCDE, c'est plus on rend transparent les actions d'influence étrangère, plus ça peut permettre justement de mieux contrer les actions d'ingérence étrangère. Donc il y a un lien. Et là, la transparence, comme vous le disiez, est quelque chose qui est tout à fait utile et qui est essentiel, en tout cas, pour un point de départ, pour mieux lutter contre ces ingérences étrangères.
Madame la députée, des points de votre rapport portés autour de la question du Rassemblement national, qui n'était pas content d'avoir été ainsi mis en cause, en particulier à propos de l'argent russe, en l'occurrence, des financements ou de la proximité avec la Russie, où en est justement ce débat que vous avez mené avec eux, qui est passé, je crois, par une plainte. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, justement, de la position du Rassemblement national par rapport à ces propositions que vous allez porter, que vous avez portées devant l'Assemblée nationale?
Alors, le Rassemblement national, vous faites bien de le dire, n'était effectivement pas du tout content de la teneur du rapport que j'ai écrit, plaisir, hein, oui. dans quelques 200 pages, où j'ai essayé vraiment très honnêtement, et peut-être pas d'une manière totalement exhaustive, parce que nous n'avons travaillé que sur quelques mois, mais en tout cas, de la manière la plus honnête et la plus objective possible, dresser un tableau, un panorama, et pointer un certain nombre de dérives et un certain nombre de dangers, notamment la manipulation de l'information, la désinformation, qui sont partie intégrante de cette guerre hybride qui se mène contre nos démocraties occidentales au sens large depuis quelques années maintenant. Mais il est vrai que, s'agissant d'une commission d'enquête qui avait d'ailleurs été demandée par le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale dans une tentative de se blanchir du soupçon de collusion avec le régime de Vladimir Poutine, j'ai pensé intéressant d'avoir un moment de réflexion et d'analyse de ce que sont les liens étroits et depuis assez longtemps avec le Front National, puis le Rassemblement National, avec la Fédération de Russie. Et donc j'ai effectivement une cinquantaine de pages consacrées pas uniquement au sujet des différents prêts russes avec des circuits de transmission de la cession de prêts assez rocambolesques, hein, assez abracadabrantesques, mais avec d'autres collusion, j'ai employé l'expression de courroie de transmission, parce qu'en matière politique, en matière de relais de positions qui sont toujours les positions diplomatiques, internationales et politiques du Kremlin sur un certain nombre de sujets, il y a une véritable ligne qui fait que lorsque j'ai parlé de courroie de transmission du Rassemblement national s'agissant de la Russie, mes mots ont fait mouche, manifestement. Alors, où en est-on maintenant? Il n'y a eu aucune plainte, hein, je tiens à le dire, il y a eu des menaces brandies ici ou là, mais absolument aucune plainte portée contre moi ni contre personne de la commission d'enquête. Et le Rassemblement national peine toujours à essayer de se dégager suspicion forte. Il n'y a qu'à regarder les votes qui sont régulièrement faits ou pas, d'ailleurs justement par les eurodéputés du Rassemblement national au Parlement européen, pour voir qu'ils sont assez constants dans le relais qu'ils font des positions du Kremlin.
Paul Charron, on a cru comprendre en vous entendant qu'il y avait donc une sorte de matrice qui était une matrice d'influence telle qu'elle était pratiquée auparavant par la Chine, la République populaire de Chine, qu'ils avaient rejoint une sorte de façon de faire que la Russie avait mise en œuvre avant eux. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'assez similaire aujourd'hui, ou est-ce que les deux traditions, la tradition venant de Moscou et la tradition venant de Pékin, se mêlent de façon originale? Y a-t-il une acclimatation justement de cette question de l'ingérence faite par Pékin aujourd'hui?
Oui, on a affaire à un modèle tout à fait original. Alors, parce que l'ancien modèle, alors les Chinois pratiquaient déjà l'influence sur un mode beaucoup plus agressif, mais c'était marginal et ça l'est de moins en moins. Et aujourd'hui, on a un modèle qui continue de puiser dans les capacités de séduction de la Chine. La Chine croit encore dans sa capacité de séduire l'Occident et une partie du monde. Donc, elle mise sur les instituts Confucius, la médecine traditionnelle chinoise,
c'est de la tradition.
Voilà l'image d'une grande puissance, mais bienveillante. Voilà l'émergence pacifique, etc. Et en même temps, et donc il y a une espèce de symbiose. Elle emprunte au répertoire russe. Et après, il y a des divergences qui persistent parce que la Chine, par exemple, a beaucoup plus de moyens financiers que la Russie, donc elle peut utiliser le levier économique.
Et cette capacité de séduction, en particulier auprès des entreprises françaises ont envie d'investir en Chine parce que c'est un marché intéressant.
Exactement. Et qui peuvent faire pression dans un certain nombre de pays pour que les gouvernements ne prennent pas trop de mesures agressives à l'encontre de la Chine. Voilà. Donc le répertoire d'action, au final, chinois, il est extrêmement vaste, extrêmement varié et difficile à contrer.
J'ai lu quelque part que François Fillon, interrogé sur ses liens avec la Russie, mais aussi son passage au poste de Premier ministre, s'était étonné qu'on s'inquiète de ses relations extérieures quand lui-même et Nicolas Sarkozy, disait-il, avaient été écoutés par la NSA, donc par l'agence d'écoute américaine. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela? Parce qu'on pense toujours en termes d'alliés et d'ennemis. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela, Constance Le Grip? C'est-à-dire, est-ce que les opérations d'influence ou les opérations d'ingérence ne sont pas aussi, ne peuvent pas venir d'une certaine manière de nos propres alliés à un moment ou à un autre?
Personne n'est naïf, ni au Parlement européen, ni au Parlement français. Il n'y a de naïveté à cet égard. Pour être membre de la délégation parlementaire au renseignement, j'ai l'occasion de régulièrement m'entretenir, comme tous les membres de la délégation parlementaire au renseignement, avec les chefs de nos principaux services de renseignement. Et je n'ai, croyez-moi, aucune naïveté. Je sais très bien que en matière de renseignement, on a peu d'amis. On peut avoir des alliés, mais on a peu d'amis. Mais les réalités d'espionnage, c'est une chose. Les réalités d'ingérence, d'influence malveillante, dissimulée à travers notamment des campagnes de désinformation massives qui sont encore récemment illustrées. Portal Combat, Doppelganger, Matryoshka sont des opérations sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir, qui attestent quand même de l'actualité la plus récente et qui est massivement malveillante, toxique et qui vise à attaquer nos médias et à attaquer notre opinion publique.
Didier Migaud et puis Paul Charron.
Oui, je crois qu'il ne faut pas être naïf, effectivement. On peut avoir des alliés, mais les alliés peuvent être tentés aussi de pratiquer l'espionnage, de pratiquer les écoutes. Bon, donc mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Constance Le Grip. Il faut faire la distinction entre effectivement ces pratiques et puis l'ingérence avec un but particulièrement malveillant pour remettre en cause justement la légitimité des démocraties qui sont les nôtres. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir apprécier.
Oui, Paul Charron.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et juste pour compléter, en tout cas dans le cas chinois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'existence même des démocraties est une menace pour la survie du régime. Il faut donc affaiblir le modèle de la démocratie.
C'est le premier des cinq poisons, c'est-à-dire c'est la question,
oui,
c'est comment...
Oui, c'est la question démocratique. C'est le risque... D'ailleurs, la Chine qualifie ça de risque d'infiltration culturelle. C'est-à-dire le risque qu'on importe en Chine les valeurs libérales, le modèle démocratique. D'où l'intérêt pour la Chine de déstabiliser nos systèmes, de les affaiblir, ce que les Américains ne font pas, même s'ils nous espionnent.
18h42 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Les ingérences étrangères vont-elles influencer le scrutin européen? C'est la question que nous avons posée à Constance Le Grip, députée Renaissance, à Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM, et à Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
En ce qui concerne les perspectives, je ne vais pas vous mentir. En historien, j'ai retracé plus d'un siècle de manipulation de masse. Nous sommes en présence de la menace la plus grave qui s'est jamais présentée sur notre pays, sur tous les plans, menace de cyberattaque, aussi bien dans la perspective des élections européennes que dans la perspective des Jeux Olympiques, menace de submersion de notre environnement informationnel par des contenus émanant de régimes étrangers qui cherchent à influencer jusqu'au vote de nos concitoyens. Et ce qui a été récemment dénoncé par Viginum doit nous alerter, c'est-à-dire qu'il y a eu un processus d'automatisation de la création et de la diffusion de contenus, et en aval, une automatisation du ciblage des contenus. On sait aujourd'hui que le micro-ciblage reposant sur l'analyse prédictive de la personnalité produit des effets considérables sur les électeurs. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de mesures efficaces pour nous en prémunir. Et par conséquent, il s'agit, je crois aussi, de sensibiliser le plus possible la population dans son ensemble aux ingérences étrangères et aux manipulations dont la population pourrait faire l'objet à courte échéance.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre l'historien David Collomb qui s'exprimait face au sénateur début mars dans le cadre d'une commission d'enquête sur la question des ingérences étrangères. Constance Le Grip, jusqu'où faut-il aller justement pour pouvoir traquer ces ingérences étrangères? J'ai cru comprendre que vous imaginiez par exemple que les think tanks qui nourrissent des émissions comme la nôtre très régulièrement, nourrissent effectivement les décisions publiques, nourrissent les réflexions des administrations, l'information devrait être d'une certaine manière contrôlée par l'HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, telle que vous l'imaginez en tout cas dans votre proposition de loi.
C'est ce que nous avons souhaité, en tout cas, à l'Assemblée nationale, au cours de la discussion de la proposition de loi. Nous avons effectivement souhaité introduire l'obligation pour les think tanks, fondations, instituts de recherche, de déclarer eux aussi, comme d'autres entreprises ou officines ou mandants divers et variés qui auraient des clients étrangers, l'obligation de transparence sur les
Qu'est-ce que vous craignez d'ailleurs derrière ça? Parce que j'imagine que si vous pensez à des think tanks, c'est que vous imaginez qu'il y a peut-être des think tanks qui sont déjà financés justement par des puissances étrangères.
Il y a des think tanks qui sont effectivement financés par des puissances étrangères ou des forces politiques ou des puissances économiques et financière. Et encore une fois, le maître mot, c'est la transparence. On a vraiment besoin de savoir d'où l'on parle, pourquoi l'on porte tel ou tel message, et que l'on soit un cabinet de lobbying, une agence de relations institutionnelles, donc un représentant d'intérêt ou un think tank, il faudra dorénavant, si nous arrivons à mener le processus d'examen parlementaire jusqu'à son terme, si tout cela est validé, déclarer les mandats étrangers que l'on a. La première étape, parce que c'est très important de sensibiliser nos compatriotes, c'est vraiment la transparence, l'information et la transparence. Après, il y a beaucoup d'autres choses pour, je reprends votre expression, traquer, et notamment l'attribution qui est faite maintenant de plus en plus régulièrement au plus haut sommet d'État par le ministre des Affaires étrangères, par le ministre des Affaires européennes, qui l'a fait encore hier, qui dénonce les opérations de massification de la fausse information, doppelganger, encore une fois, Portal Combat, etc. Plus de 200 faux sites fabriqués, automatisés, qui donnent des fausses informations et qui nous manipulent.
Et pour cela, il faudra beaucoup d'argent pour que le budget de l'achat TVP soit plus important, parce que ça vous fait beaucoup de travail. Si cette proposition de loi aboutit, si elle est votée, il va falloir que l'État vous donne plus d'argent à l'achat TVP.
Si je puis me permettre, le grand intérêt d'ailleurs de la proposition de loi, c'est de tenir compte des quelques insuffisances du dispositif de régulation de la représentation d'intérêts de la loi Sapin 2 et de surmonter justement ces insuffisances à travers une définition du représentant d'intérêt qui exerce une influence étrangère très large et un champ d'action de la décision qui est lui-même élargi. C'est pas seulement essayer d'influencer un décideur public, mais aussi essayer d'influencer l'opinion publique en général et d'essayer d'influencer le cours d'une élection. Bon, donc je trouve que la proposition de loi là va tout à fait dans le bon sens en retenant des définitions très très larges qui permettent justement de mieux cerner les activités d'influence étrangère. Après, bien évidemment, il faudra les moyens. Déjà, la Haute Autorité n'a pas tout à fait les moyens pour exercer la plénitude
des missions
qui sont les siennes. Donc, si on confie une mission supplémentaire à la Haute Autorité sans les moyens correspondants, on se fait plaisir, mais c'est tout. Donc, il faut aussi se donner, bien sûr, les moyens d'agir. Quand vous regardez les moyens qui sont mobilisés aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne, honnêtement, ce que nous faisons en France est très insuffisant.
Oui, et par rapport à la Chine, encore plus, j'imagine, Paul Charron.
Oui, alors les moyens chinois sont difficiles à mesurer. Pour le ministère de la Sécurité d'État, par exemple, c'est quasiment impossible. Pour le ministère de la Sécurité publique, qui est un peu l'équivalent de la DGSI, on évalue les effectifs à 80 000, vraisemblablement.
Mais en France, c'est pas tout à fait ça.
Mais c'est une autre échelle.
En France, c'est une autre échelle, voilà, c'est ça. Alors, c'est à la fois beaucoup et peu en comparaison d'autres régimes autoritaires, mais ça donne une idée des effectifs aussi sur le terrain en Europe. C'est-à-dire que les effectifs des services de renseignement européens sont sous-dimensionnés pour lutter contre une...
Alors prenons un exemple. Le président Xi Jinping est lundi et mardi en France. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'influence, d'un côté, parce qu'il est reçu par le président de la République, ils vont même aller faire un tour dans les Pyrénées, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et de l'autre côté, d'influence d'un côté, et de l'autre côté, d'ingérence. Qu'est-ce qu'on peut dire et comment peut-on d'ailleurs discuter avec un président d'un pays dont on dit qu'il pratique l'ingérence dans notre propre pays ?
Ah ben, il est bien naturel d'avoir des liens diplomatiques avec la Chine.
Absolument.
C'est indispensable d'ailleurs.
Il y a même tout un tas. Un grand Premier ministre qui ne cesse d'avoir des liens avec la Chine.
Oui. Alors, en fait, il faut continuer de discuter. Et il y a d'ailleurs des sujets que l'on doit traiter en commun. Hein. On peut penser à la question du climat, par exemple.
La question de l'Ukraine.
Sur laquelle nous avons besoin de la Chine pour régler ces problèmes. Ce qui ne veut pas dire que nous devons être naïfs face aux activités clandestines de la Chine qui menacent nos systèmes, nos valeurs, nos institutions, etc. Donc il faut à la fois entretenir des relations diplomatiques, ce que le fait le président, et en même temps lutter contre les opérations clandestines de la Chine par la mise en place de moyens voués à cette lutte. Viginum en est un bon exemple. Les services de renseignement aussi, DGSI, DGSE, bien évidemment.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une attention particulière portée aux opérations militaires françaises, aux militaires français, aux pilotes de Rafale, à ceux qui sont à bord de nos sous-marins nucléaires, par exemple.
Alors, pas particulière, mais oui, il y a un intérêt, bien évidemment. C'est pas la priorité de la Chine. La priorité de la Chine, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la survie du régime. Mmh. Donc ils vont plutôt lutter contre les menaces internes qui pourraient se trouver en Europe, c'est-à-dire les ramifications de ces menaces internes en Europe.
Et la défense de ceux qui veulent défendre les Ouïghours, par exemple.
Par exemple, les Ouïghours, les Tibétains, les Taïwanais, les Falun Gong, voilà. Mais ensuite, bien évidemment, ils vont tenter de recueillir du renseignement. Et ce renseignement, il peut être de nature politique. Par exemple, la position de tel député sur tel sujet sensible du point de vue de la Chine, négociations commerciales, position sur les Ouïghours, etc. Mais il peut s'agir de renseignements militaires, de renseignements économique, scientifique.
Qu'est-ce qu'on appelle dans ce domaine qui travaille sur les questions d'ingérence le devoir de discrétion pour les hauts fonctionnaires ou les personnes qui... Est-ce qu'on peut le définir d'une certaine manière, Madame la députée Constance Le Grip?
Oui, on peut le définir. Il y a un devoir de réserve.
Devoir de réserve, on sait.
Tout au long de la carrière. Et puis, un devoir de discrétion après. Alors, il appartient à chaque administration. Et le ministère de la Défense est particulièrement sourcileux et vigilant quant à l'application de ce devoir de discrétion. D'ailleurs, dans la dernière loi de programmation militaire...
Ça veut dire que quand on part à la retraite, voilà. on doit, d'une certaine manière...
C'est ce que ça veut dire. Et puis, c'est défini de manière très, très précise. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais par exemple, dans la dernière loi de programmation militaire, nous avons durci les conditions de reconversion professionnelle pour les militaires qui souhaitent assez légitimement commencer une deuxième vie une fois qu'ils quittent l'armée. Mais maintenant, il va y avoir un process de contrôle et de vérification des possibilités de reconversion professionnelle auxquelles peuvent penser tel ou tel ancien militaire, renforcé, bien évidemment, parce qu'il y a eu quelques cas qui ont pu sembler problématiques.
Vous le savez, j'imagine, Didier Migaud, enfin je l'imagine en tous les cas, en tant que président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, disons, la délinquance va toujours un peu plus rapidement que ceux qui la combattent, donc on a toujours un peu un train de retard par rapport à tout cela. Est-ce que vous pensez que ce train de retard, puisqu'on a bien compris qu'on n'était pas tout à fait à la hauteur des enjeux ces temps-ci, mais on sera peut-être d'ici peu de temps, on peut le rattraper rapidement?
Je pense en tout cas que la proposition de loi, si elle va à son terme, peut représenter un progrès. Ça ne réglera pas tout, bien évidemment, mais je pense que ce sera un progrès. Il y a aussi d'autres propositions qui sont formulées par l'OCDE, notamment sur le contrôle des mobilités.
Qu'est-ce qu'on appelle le contrôle des mobilités?
C'est le passage entre le public et le privé. Et vous pouvez passer
aussi... Ce qu'on appelait dans le temps le pantouflage.
Oui, le pantouflage ou les portes tournantes, comme disent les anglo-saxons. Bon, alors ça peut être aussi le passage d'une fonction publique vers une entreprise étrangère aussi. Bon, donc avec toute la question de l'influence étrangère, voire de l'ingérence étrangère. Donc dans ce que suggère l'OCDE, c'est qu'éventuellement, au-delà du risque pénal et du risque déontologique que la Haute Autorité prend en considération quand elle est saisie d'une demande de reconversion dans le privé, puisse prendre en compte le risque d'ingérence. Bon. Le risque déontologique peut le permettre, mais c'est plus clair, effectivement, si on affirme un risque d'ingérence possible. Et l'OCDE suggère aussi que le temps d'examen après la cessation des fonctions puisse être éventuellement supérieure aux 3 années actuelles. Bon, pour renforcer justement la possibilité d'empêcher la captation d'un certain nombre d'agents publics français au service donc d'entreprises étrangères. Alors, on a encore des trous. Bon, il y a quelques trous qui viennent d'être comblés par le législateur, mais la Haute Autorité formule un certain nombre de propositions. Et je crois qu'on aurait intérêt à combler ces trous.
Oui, Constance Grippe et peut-être vous aussi, Paul Charron. On a vu récemment effectivement un quadragénaire qui travaillait avec un député allemand, qui avait la double nationalité chinoise et allemande, donc être mise en cause et mise en examen en Allemagne.
Et son patron, député européen allemand de l'AFD, est lui aussi fortement soupçonné d'avoir reçu de l'argent en provenance de la Russie.
Mais il reste à la tête de la liste européenne pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression, Allemagne, Autriche, que pour l'instant, la France est totalement exemptée par ces questions-là, alors qu'on voit tomber un peu partout des affaires sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui explique d'une certaine manière qu'on ne soit pas assez... Est-ce qu'on ne va pas assez loin, justement, dans la mise en cause? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'on n'est pas visé aussi de façon assez importante que d'autres pays, Constance Le Grip?
Alors, nous ne sommes pas forcément autant visés que d'autres pays par ces actions qui s'apparentent à la corruption. Hein. Nous avons pu, il y a plein d'exemples, subir d'autres formes d'ingérence très pernicieuses qu'on appelle la captation des élites, qu'il s'agisse d'élites politiques, d'élites économiques, d'élites intellectuelles ou universitaires. Il y a là, en France, et depuis fort longtemps, on a souvent parlé de la fascination russe, n'est-ce pas? Ces formes d'ingérence extrêmement sournoises.
Il y a le livre des Avidal sur ce sujet-là.
Qui font qu'un certain nombre de nos brillants esprits sont captés, entre guillemets. On n'est pas dans la corruption, on est dans autre chose. Mais je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de gens en France qui sont actuellement sous les feux des protecteurs de la justice.
Didier Migaud.
Oui, même si j'évoquais quelques trous dans le dispositif français, il faut reconnaître que la France a mis en place un dispositif au niveau du contrôle des mobilités, justement publiques, privées, des projets de reconversion professionnelle, qui existent dans assez peu de pays de l'Union européenne. D'ailleurs, j'avais été invité par la présidence belge en ce moment pour présenter le dispositif à l'ensemble des ministres de la fonction publique au niveau européen. Et la France est plutôt une référence en la matière.
Paul Charron, on sait que la France est visée par la Russie. Est-ce que par rapport à d'autres pays européens, on est moins visé ou est-ce qu'on est tout autant dans le viseur ?
C'est très difficile à dire. Il faut toujours être très prudent parce qu'il y a... Oui, pour la Chine, bien sûr. Parce qu'il y a ce qu'on voit. Il y a la partie observable des faits, disons, les statistiques. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part... Donc les opérations qu'on peut identifier, est-ce qu'elles représentent 20% de l'ensemble des opérations ou 80%? Personne ne peut le dire. Mais vraisemblablement, la France semble moins touchée que d'autres pays européens sur ce registre d'opérations de renseignement, de recrutement de sources humaines. Mais les opérations d'influence en France sont massives.
Oui, les opérations de désinformation et de manipulation de l'information, encore une fois, nous subissons un véritable pilonnage de la part de la Russie, particulièrement dans cette période de campagne électorale européenne, tant la Fédération de Russie veut influencer sur le cours des événements électoraux.
On a d'ailleurs entendu M. Medvedev le dire, effectivement.
Avec une différence majeure qu'il faut souligner entre la guerre froide et aujourd'hui, c'est qu'on connaît bien moins notre adversaire que pendant la guerre froide.
Merci en tous les cas à tous les trois et toutes les trois d'être venus. Constance Le Grip, députée Renaissance, ancienne rapporteure de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères et aujourd'hui membre de la délégation parlementaire au renseignement. Merci à vous, monsieur le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Didier Migaud, ainsi que Paul Charron, directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. Votre livre s'appelle « Les opérations de l'influence chinoise, un moment machiavélien » aux éditions Équateur. C'était le temps du débat préparé ce soir par Roxane Poulin, Mathias Mégis, Fanny Richet, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Élise Leu à la technique.